Chapitre 28. Aux sources du Saïman. Le général d'Ancret fut réveillé par les cris de panique qui montaient depuis la cour. Il se leva d'un bond et se rua vers la fenêtre pour voir ce qu'il se passait. Il ne s'attendait pas à une attaque si rapide, mais en entendant les hurlements et les bruits de course dans le château, il imaginait mal que ce pût être autre chose. En vérité, la première hypothèse à laquelle il songea, et qu'il avait d'ailleurs envisagée, était un incendie. Il n'était pas impossible qu'un habitant de Tarnéa, dans un élan de rage folle, en vînt à vouloir mettre le feu à sa propre ville pour résister à l'envahisseur. Mais quand il se pencha par la fenêtre, d'Ancret comprit qu'il s'agissait de toute autre chose. La cour du château était inondée. Des flots gigantesques entraient par toutes les portes de l'enceinte, remontaient par les caves et envahissaient déjà l'édifice. Soldats et serviteurs couraient en tous sens pour essayer de stopper la catastrophe, mais ils ne savaient pas comment s'y prendre. Le général d'Ancret pesta. Il ne manquait plus que ça. Il enfila en vitesse un pantalon de toile, une chemise et une courte veste en cuir. Il s'assit sur son lit et, tout en enfilant ses bottes, essaya d'analyser la situation. Il tourna soudain la tête vers la fenêtre et regarda le ciel nocturne. Il ne pleuvait pas. Pas une seule goutte de pluie. Comment l'étang ou le scellé avait-il pu déborder s'il ne pleuvait pas? Une intuition. Une évidence. Il comprit aussitôt que c'était un traquenard. Il se leva brusquement, repartit vers la fenêtre et se mit à hurler vers la cour.
« C'est un piège! C'est un piège !»
Mais personne ne pouvait l'entendre dans le vacarme et la panique. Tous, en bas, étaient trop occupés à essayer d'arrêter les trombes d'eau pour réfléchir à la cause possible de l'inondation. Au même moment, une boule de feu explosa au-dessus de la ville. Le général sursauta. Il se demanda s'il pouvait s'agir d'un éclair. Non, bien sûr. Cela faisait partie de l'attaque. Des petites braises se mirent à descendre lentement dans le ciel, comme une pluie de lumière qui éclairait la cour du château. Le général put alors contempler l'ampleur de la catastrophe.
« Imbécile !» pensa-t-il.
Toutes les portes du château étaient ouvertes à présent, et certains serviteurs se faisaient même emporter par le courant.
« Fermez les portes !»
hurla d'Ancret en frappant du poing sur le rebord de la fenêtre.
« Fermez ces maudites portes !»
Mais ses cris ne servaient à rien. Furieux, il fit volte-face et fonça vers le couloir. Au moment où il sortit, l'un de ses soldats arriva en courant vers la porte et ils se percutèrent sur le seuil.
« Excusez-moi, mon général !» balbutia le jeune homme. « Je venais vous chercher. Il y a une inondation !»
d'Ancret fulminait.
« Ce n'est pas une inondation, imbécile! C'est un piège !»
Il bouscula le soldat et se précipita vers l'escalier qui menait au rez-de-chaussée. En se retournant, il cria au jeune homme.
« Allez me chercher le capitaine Dalil ! Dites-lui de me rejoindre à la grande porte, immédiatement !»
Il n'attendit même pas la réponse du soldat et dévala les marches jusqu'au vestibule, dont le sol était déjà complètement submergé. Courant péniblement dans l'eau, il sortit dans la cour et partit tout droit vers la grande porte. Chaque fois qu'il croisait un homme, il lui criait
« Aux armes ! Aux armes ! C'est un piège !»
Les soldats couraient dans tous les sens. Les reflets de la lune dans l'eau dansaient au rythme des vagues et des éclaboussures. Petit à petit, les soldats se passaient le mot du général, et bientôt, on les entendit à leur tour appeler leurs semblables aux armes.
« Fermez les portes ! Fermez les portes !»
hurla le général en approchant de la grande arcade qui ouvrait le château. Plusieurs soldats essayèrent d'exécuter son ordre, mais il y avait bien trop d'eau pour qu'ils puissent y parvenir. C'est à cet instant précis que le général entendit en haut des remparts le cri qu'il redoutait.
« Armée en vue !»
hurla une sentinelle depuis le chemin de ronde.
« Une armée est en train de passer la porte de Cavalia !»
d'Ancret poussa un hurlement de rage.
« Je veux qu'on me ferme ces portes »
répétait-il en retournant vers le centre de la cour. Il courait d'un soldat à l'autre pour leur ordonner d'aller prêter main forte à ceux qui essayaient désespérément de clore les immenses bâtons de bois.
« Là-haut »
cria-t-il à la sentinelle.
« Dépêchez-vous ! Préparez-vous à actionner le système de fermeture !»
Le soldat leva les bras d'un air désolé. Tous les soldats n'avaient pas encore eu le temps de se familiariser avec le château, et celui-ci, visiblement,
ne savait pas de quoi parler d'Ancret.
Derrière l'assommoir, là !
Cria d'Ancret, en indiquant la section des remparts juste au-dessus de la grande porte.
Actionnez ce maudit système, imbécile !
Le vigile partit en courant vers l'assommoir, cherchant le mécanisme.
Général !
D'Ancret fit volte-face. C'était le capitaine Danil. Une quinzaine de soldats le suivaient déjà.
Général, reprit le capitaine. C'est la bannière d'Aléa. Évidemment,
rétorqua d'Ancret.
Qui vouliez-vous que ce soit? D'où croyez-vous que viennent ces braises qui tombent du ciel? Faites monter des archers sur les remparts. Faites installer de l'huile bouillante et de la poix dans les bretèches s'il est encore temps. Et disposez des piques le long des courtines. Il y en a plus qu'il n'en faut dans l'armurerie. Tout de suite, mon général.
Danil se retourna et transmit les ordres à ses hommes. Puis il s'adressa de nouveau à d'Ancret.
Je pense que nous devrions rassembler des cavaliers dans la basse-cour, mon général. Si l'ennemi parvient à rentrer, il faudra être prêt à les accueillir. Faites, Danil,
agréa d'Ancret.
Faites. Quant à vous, il serait sans doute plus sage que vous montiez au donjon. Pas pour le moment. Ces imbéciles ne sont pas capables de défendre le château sans nous, Danil. Nous devons rester ici tant que la panique régnera. Envoyez vite des messagers dans les postes de garde. Tout le monde doit se rallier au château. Des combattants sur le parvis ne seront pas de trop. Cela obligera l'ennemi à supporter deux assauts de front.
Entendu.
Danil s'exécuta aussitôt, se précipitant vers l'aile ouest de la haute cour. D'Ancret partit à son tour pour rejoindre les escaliers qui menaient aux courtines. Au fur et à mesure qu'il montait les marches, les cris de l'assaillant au dehors se faisaient de plus en plus forts. Quand il arriva en haut, il constata avec horreur que toutes les meurtrières n'étaient pas encore occupées par ses soldats.
« Plus vite !»
hurla-t-il en voyant les hommes qui couraient derrière lui. Il se pencha pour regarder dans la cour. Alors que les soldats en contrebas étaient enfin parvenus à faire avancer les deux battants de la grande porte, et qu'ils étaient sur le point de pouvoir la refermer, les premiers soldats de la terre apparurent, hurlant, épée levée. Et le combat commença. Fingin se précipita vers Aléa pour l'aider à se relever. La jeune fille tremblait. Elle s'appuya sur l'épaule du druide en le remerciant. La boule de feu s'était éteinte, et les dernières braises étaient tombées. Mais le ciel commençait déjà à s'éclaircir, les étoiles à disparaître. Le matin allait bientôt arriver. Derrière eux, le sens du courant dans le canal avait repris son cours normal. Mais le flot était si agité qu'il recevait des éclaboussures.
« Tu penses que ça a marché ?»
demanda Aléa, fébrile.
« Je l'espère. Je vais aller voir. Toi, tu restes ici. Il faut que tu reprennes des forces. »
Aléa commença à protester, mais le druide posa sa main sur la bouche de la jeune fille.
Pas un mot, Aléa. Tu n'es pas en état de te battre. Si tu es tellement stupide et borné que tu veux vraiment venir, promets-moi au moins d'attendre quelques instants. Tu ne tiens même pas debout. Assieds-toi et attends un peu.
Aléa acquiesça en poussant un soupir. Le druide lui lança un regard dubitatif, puis il partit en secouant la tête. Il se mit à courir le long du canal, traversa une première porte qui menait au faubourg du Pin, passa un pont sur sa gauche, longea la rangée de fermes et de maisons, puis aperçut un homme au milieu du chemin qui courait vers lui. Fingin ralentit le pas, méfiant.
« Druide !»
cria l'inconnu à bout de souffle.
« Druide ! Vous êtes avec Aléa ?»
Fingin fronça les sourcils. « Qui êtes-vous » demanda-t-il.
« Qu'adrige ? »
répondit l'homme en tendant la main au druide.
C'est moi qui ai guidé Aléa et le capitaine Fario cette nuit. J'attends depuis tout à l'heure à l'endroit même où je les ai rencontrés. Je veux me rendre utile.
Fingin acquiesça. Ils m'ont parlé de vous.
Vous voulez entrer dans la ville?
Oui.
Je m'en doutais. Il ne faut pas que vous passiez par là, druide. Il y a un poste de garde juste devant la porte du Pin. Suivez-moi, je vais vous amener un peu plus haut. Il y a un petit passage qui donne sur la rue du Clos. Je ne crois pas qu'il y ait de soldats de la flamme là-bas.
Allons-y, répondit Fingin sans attendre. Le Tarnéen hocha la tête et partit d'un pas vif vers la ville. Ils longèrent encore le canal jusqu'à ce qu'ils arrivent à un croisement. La route principale continuait tout droit vers la porte du pain, et une petite rue en pente montait vers le nord. Kadrige se précipita dans celle-ci en faisant signe aux druides de le suivre. La pente était assez raide, et Fingin commençait à fatiguer. La manipulation du Saïman l'avait épuisé, et même s'il avait dépensé beaucoup moins d'énergie qu'Aléa, il n'était pas au mieux de sa forme. Ils arrivèrent enfin à un nouveau croisement et obliquèrent sur la gauche, dans une rue qui ne montait plus. Fingin fit une halte, reprit son souffle en s'appuyant sur ses genoux, puis voyant que le Tarnéen ne s'était pas arrêté, il se remit à courir.
« C'est par là !»
s'écria Kadrige en pointant vers le bout de la rue.
« Il y a une petite ruelle qui mène à l'intérieur !»
Ils passèrent encore quelques maisons et l'enceinte de la ville apparut enfin au-delà des toits. Le Tarnéen s'arrêta au bout de la rue et fit signe à Fingin de se dépêcher. Le druide était à bout de souffle. Il ralentit le rythme de sa course pour faire les derniers pas en marchant, s'appuyant contre le mur de la maison à sa droite. Soudain, il entendit un sifflement devant lui. Il leva la tête et découvrit le visage horrifié de Kadrige. Les yeux écarquillés, le Tarnéen tomba sur ses genoux en geignant. La pointe d'une flèche sortait de sa poitrine. Puis tout son corps tomba en avant. Sa tête heurta violemment le sol pavé. Fingin se précipita contre le mur. Il y avait un tireur en haut des remparts. Le souffle court, les jambes tremblantes, le druide n'arrivait pas à quitter des yeux le corps de Kadrige. La flèche qui avait traversé le cœur du Tarnéen aurait été pour lui s'il était arrivé seul. Aurait-il pu l'éviter? Aurait-il vu l'archer à temps? Ou serait-il mort à cet instant? Il essaya de chasser cette question de son esprit et releva la tête pour voir s'il pouvait repérer le tireur. Il se pencha un peu en avant, et aussitôt, il entendit le souffle d'une seconde flèche décochée. Il eut tout juste le temps de se plaquer contre le mur de la maison derrière lui, et la flèche le manqua de peu, pour se planter dans la porte de la maison suivante. Fingin n'osa plus bouger. Le dos collé à la pierre, il retenait sa respiration. Il resta ainsi un moment, puis quand il entendit un bruit vers les remparts, il glissa le long du mur pour contourner la maison et ressortir de l'autre côté. Pas à pas, il progressa latéralement sans faire de bruit, passa le coin de la maison et se précipita derrière le mur opposé aux remparts. Là, il souffla un instant. Il jeta un coup d'œil à la façade de la maison. Il n'y avait aucune fenêtre. Il ne pourrait pas passer par l'intérieur. Il allait bien devoir faire le tour. Il partit vers l'autre côté du bâtiment et se positionna juste derrière le coin. Il suffisait qu'il penche la tête et il pourrait voir les remparts. Mais le tireur se doutait certainement que le druide allait apparaître de ce côté-ci. Fingin se retourna. Il rassembla un peu de Saïman au bout de ses doigts et envoya une toute petite boule d'énergie vers le coin opposé pour faire du bruit à l'endroit même où il était l'instant d'avant, espérant que cela tromperait l'attention du tireur. Aussitôt, il se pencha pour regarder de l'autre côté de la maison. Il vit alors une meurtrière. Une ombre derrière, qui armait une flèche. Le druide n'hésita pas un seul instant. Il puisa au fond de lui l'énergie bouillonnante et tendit le bras vers la meurtrière. Il y eut un grand éclair bleu, bref et brillant, puis quelques étincelles sur la pierre, et Fingin entendit le bruit d'un corps qui tombait. Il avait touché le tireur. Mais il y en avait peut-être un deuxième. Le druide, pourtant, tenta sa chance. Il se précipita vers les remparts. Il courut aussi vite qu'il put. À chaque nouveau pas, il s'attendait à recevoir une flèche, à être arrêté dans sa course par un trait fatal. Mais il arriva finalement au pied de l'enceinte sans aucun problème. Il reprit son souffle, passa par la petite ruelle que lui avait indiquée Kadrige et entra dans la capitale. Il vit que le sol était trempé, mais l'eau était déjà repartie. Il fit quelques pas pour arriver à un croisement. Là, il aperçut au sud-ouest le haut d'un donjon. Le château n'était qu'à quelques rues de là. Il se mit à courir, essayant de rester près des murs pour profiter de l'ombre et éviter un nouveau tireur, traversa une rue plus grande et s'engouffra dans une autre ruelle. Il vit en passant des citadins et même quelques soldats qui couraient dans la rue, mais ceux-ci ne semblèrent pas le remarquer, sans doute grâce à l'obscurité et à la panique qui régnait dans la ville. Il entendait déjà les bruits des combats. Il espérait seulement que le plan d'Aléa avait marché. Il arriva bientôt devant le canal, le suivit jusqu'à l'estang et aperçut la grande place où était érigé le château. Ce qu'il vit alors l'épouvanta. D'un seul coup d'œil, il comprit la situation. L'armée de la terre était en train de se faire massacrer. Les portes du château étaient refermées. Des archers, postés dans les coursives, décochaient des milliers de flèches sur leurs assaillants. Quelques soldats de la terre qui essayaient de grimper le long de la paroi se firent ébouillanter. Leurs corps tombèrent du haut des remparts et s'écrasèrent lourdement sur le pavé de la ville. Des centaines de corps s'amoncelaient sur la grande place. Au milieu de celle-ci, le corps du comte de Sarre, pendu à une potence, se balançait encore au-dessus de ce champ de mort. Fingin tomba à genoux, horrifié. Il y avait tellement de victimes, tellement d'innocents. Erwan lui-même avait-il péri? Kathleen? Des larmes montèrent à ses yeux. Il prit sa tête entre ses mains. Il lui semblait qu'il allait s'évanouir. Mais il n'avait pas le droit. Non, Aléa comptait sur lui. Il était un grand druide. Il ne devait pas se laisser abattre. Il inspira profondément et essaya de se ressaisir. Et comme si la Moïra l'avait entendu, quand il leva les yeux, il aperçut Erwan de l'autre côté de la place. Son magistel. Son plus fidèle ami. Fingin se releva d'un bond. Erwan était debout. Il criait à ses hommes de se replier. Fingin n'hésita pas un instant. Dans un élan de bravoure insensé, il se précipita sur la grande place. Plié en deux, il la traversa en courant, enjambant les cadavres, oubliant les flèches qui sifflaient autour de lui. Erwan l'aperçut.
« Fingin ! Fingin ! » hurla-t-il. « Dépêche-toi ! Tu es fou !»
Il ne restait que quelques pas. Le druide accéléra. Il chercha dans le Saïman un peu de force supplémentaire. Ses pieds semblaient voler au-dessus du sol. Tout se passa en un seul instant. Il était presque arrivé. 3 ou 4 pas à peine. Les choses se passèrent si vite qu'il ne sut s'il entendit d'abord la voix d'Erwan ou le sifflement de la flèche.
« Couche-toi !»
La voix du magistel résonna dans sa tête comme en songe. Le druide plongea en avant. Il eut à peine le temps de voir la pointe du projectile qui fonçait vers son crâne. Il s'étala de tout son long sur le pavé trempé de la place. Son corps roula sur le côté. Puis ce fut l'obscurité. Totale. Mais un instant seulement. Ou une éternité. Quand il rouvrit les yeux, il vit le visage du magistel au-dessus de lui. Erwan l'attrapa sous les épaules et le tira en arrière pour l'emmener à l'abri.
« Ça va ?»
Fingin se redressa péniblement. Il passa une main sur son crâne chauve. Il sentit le liquide poisseux entre ses doigts.
« Ce n'est rien !» le rassura Erwan. « La flèche n'a fait que t'effleurer. Mais qu'est-ce qui t'a pris de traverser la place comme ça? T'es complètement fou !»
Le druide avala sa salive, puis il souffla un bon coup. J'ai bien cru que j'allais y passer. Le magistel secoua la tête.
Kathleen ?
Demanda le druide.
Elle est là, quelque part, avec Mjoln.
Fingin jeta un coup d'œil derrière lui. La plupart des soldats avaient quitté la place et s'étaient réfugiés comme eux dans les rues voisines. Les autres étaient morts au pied du château.
Que s'est-il passé ?
Demanda Fingin en grimaçant.
Ça n'a pas marché.
Erwan serra les poings. Il avait le regard fixé sur la grande place et les centaines de morts.
Ça a marché, si, mais pas longtemps. La surprise n'a pas duré. Nos premières troupes sont parvenues à rentrer. Je ne sais pas combien d'hommes, mais ils sont bien entrés. Puis les soldats de la flamme ont réussi à refermer les portes. Les autres doivent tous être morts à l'intérieur maintenant. Et nous, ici, ne pouvons plus rien faire. Ils ont tout refermé. Et nous n'avons aucune machine pour passer à l'assaut. Pas de baliste, pas de bélier, pas de beffroi, rien. Nous sommes perdus, Fingin.
Comme chaque année au milieu de l'automne, Alvaro Bisani avait fait venir une troupe de cheminants dans le grand théâtre de Farfanaro. C'était une tradition à laquelle tenaient les habitants de Bizagne et où les nobles de la baronnie pouvaient se livrer à leur exercice favori, la descenza. Les femmes venaient y montrer leurs plus belles robes, les hommes leurs plus belles femmes, et les gens du peuple, debout sur les balcons en hauteur, admiraient le spectacle qui se donnait autant sur scène que dans la salle. Pour ouvrir le premier soir, la troupe de cheminants donna l'une des pièces les plus célèbres de Gaëlia, l'Épreuve, chef-d'œuvre du barde Hohanlon. L'interdiction de l'écriture imposée depuis la nuit des temps par les druides limitait de fait le nombre de pièces qui circulaient dans les répertoires des acteurs de l'île, car les textes ne se transmettaient qu'oralement, ce qui réduisait grandement leur diffusion. C'était davantage sur l'interprétation que l'on jugeait la pièce, et les spectateurs aimaient alors à se livrer au grand jeu des comparaisons. Comme la plupart des gens de son rang, le baron connaissait bien sûr cette pièce par cœur, mais il se devait d'être là pour la première représentation, afin d'inciter les Bizagnais à venir au théâtre. Maintenir l'édifice coûtait cher à la ville. La publicité qu'assurait la présence du baron n'était donc pas un luxe. Pour les nobles, c'était la soirée où l'on se devait de paraître. Et pour la population, c'était celle où l'on pouvait voir le plus d'aristocrates. Alvaro Bizagni, vêtu de l'un de ses costumes les plus extravagants, avait donc pris place dans la loge somptueuse qui surplombait la scène, accompagné du bailli Stefano et de l'un de ses serviteurs. Appuyé sur sa canne dans l'ombre de l'avant-scène, il regardait la pièce avec intérêt. Il regrettait certes un peu que les acteurs n'aient pas pu proposer une pièce moins connue. Il existait notamment d'autres textes remarquables du même barde qu'on ne jouait presque jamais. Mais il fut toutefois agréablement surpris par l'interprétation des cheminants, et à la fin du premier acte, il se leva pour applaudir, imité par toute la salle qui acclama les acteurs.
« C'est un ravissement !»
lança-t-il au bailli qui se contenta de lui répondre par un sourire. C'était donc à présent le moment de l'entracte, qui pour la plupart des nobles était le point culminant de la soirée. L'occasion de partager un verre avec le baron ou d'offrir aux autres spectateurs leurs premières impressions. Bizagni fit un petit tour au rez-de-chaussée du théâtre afin de serrer quelques mains et de féliciter le directeur.
« C'est un ravissement !»
répéta-t-il en embrassant le vieil homme.
« Un ravissement !»
Le directeur fit une révérence fidèle aux règles de la descenza, et tous les curieux amassés dans le couloir l'applaudirent chaleureusement. Quelques instants plus tard, dans le brouhaha des conversations, la cloche annonçant la reprise imminente de la pièce retentit. Alvaro Bizagni regagna sa loge avec le bailli, montant péniblement les marches en marbre du grand escalier en s'appuyant sur sa canne. Quand tout le monde eut regagné sa place, on éteignit les torches dans le public. Le grand rideau rouge s'ouvrit pour la seconde fois. Les acteurs apparurent au milieu des nouveaux décors. Mais alors que les cheminants entamaient la première scène, le baron entendit un bruit à l'arrière de sa loge. Fronçant les sourcils, il se retourna, s'imaginant que c'était son serviteur. Il découvrit devant lui la silhouette obscure d'un homme qui tenait dans sa main un poignard. Le baron sursauta. Il se releva sur sa chaise, ses mains tremblantes cherchant l'appui des accoudoirs. Il tourna la tête pour voir si le bailli Stefano, sur sa droite, l'avait vu lui aussi. Mais ce dernier, immobile, avait la gorge tranchée. Une fois la stupeur passée, Bizagni essaya de hurler, mais l'intrus l'en empêcha aussitôt, pressant sa main sur la bouche du baron en l'attrapant par derrière. Bizagni commença à se débattre, terrifié. Mais il ne pouvait pas lutter, pas se battre. Il n'en avait plus l'âge ni la force. En bas, la scène continuait. Personne ne semblait avoir remarqué le drame qui se nouait dans la loge du baron. Et d'une certaine manière, c'était pour lui encore plus effrayant. Il allait mourir seul, lui qui avait vécu dans le nombre. Ne plus jamais croiser le regard de ses sujets. Leurs regards admiratifs, jaloux. Craintif. Ne plus jamais voir sa propre gloire qui se reflétait dans leurs yeux. Mourir dans le dos de tous ces gens qui n'avaient Dieu que pour la scène, qui ne l'entendraient même pas souffler son dernier râle. Soudain, Alvaro sentit le métal froid de la lame sur son cou. Lentement, le couteau s'enfonça dans sa chair. C'était comme une morsure gelée. Puis la lame glissa le long de sa gorge. Un geste rapide. si simple. Ainsi, petit geste. Le baron se vida de son sang et mourut en silence. Le liquide rouge coulait abondamment de sa gorge, se répandant sur son corps et sur le large fauteuil. Pendant ce temps-là, un peu plus bas, les cheminants continuaient de jouer leurs pièces.
Mais qu'est-ce que c'est que ça ?
Erwan, désespéré, était sur le point d'ordonner à ses troupes de quitter la ville pour se réfugier dans la colline quand il entendit l'exclamation surprise de Fingin derrière lui. Le magistel se retourna et s'ébahit à son tour en découvrant ce qui se passait sur la grande place. Les yeux écarquillés, il n'arrivait pas à croire à ce qu'il voyait. En plein milieu de l'esplanade, juste au-dessus du sol, une boule de feu était en train de grossir, tournant sur place, se gonflant progressivement et envoyant tout autour d'elle des vagues de chaleur que l'on ressentait jusqu'au bord de la place. Erwan, bouche bée, fit un pas en arrière comme pour se protéger. Il aperçut alors le groupe réuni de l'autre côté de l'esplanade.
« Regarde !»
balbutia-t-il en attrapant le bras de Fingin.
« Aléa est avec Saïmina !»
Fingin acquiesça. Il venait de les apercevoir, lui aussi. Hernan, Kiaran, Shehan et tous les autres. 5 grands druides et au moins une 50aine de druides étaient assemblés avec Aléa devant le grand étang. Tous ensemble, ils unissaient leurs forces pour faire croître cette incroyable boule de feu qui se mettait à présent à avancer lentement vers l'immense porte du château de Tarnéa. Erwan poussa un cri de joie, serrant le bras de Fingin dans ses mains. Petit à petit, les soldats de la terre amassés derrière lui s'approchèrent eux aussi. Les uns après les autres, ils découvrirent la scène avec stupéfaction. Et soudain, dans un grand éclair jaune, la boule de feu accéléra et alla s'écraser contre les 2 battants de bois qui fermaient le château. Il y eut une explosion assourdissante. La porte fut pulvérisée en milliers de morceaux et des pans entiers des remparts s'écroulèrent. Un nuage de fumée et de poussière se souleva autour du point d'impact, noyant l'ensemble du château sous un grand voile opaque. Erwan lança à Fingin un regard médusé.
« Tu as vu ça ? »
bafouilla-t-il, incrédule. Mais Fingin ne répondit pas. Il se contenta de sourire. Lentement, la fumée commença à se dissiper. Les flammes avaient envahi une bonne partie de la façade du château. Des poutres et des pierres continuaient de tomber, projetant des gerbes d'étincelles. Mais surtout, Erwan découvrit avec surprise que l'énorme boule de feu était déjà en train de se reconstituer à l'intérieur de la cour. Il jeta un coup d'œil de l'autre côté de la place et vit en effet qu'Aléa et les druides continuaient de se concentrer, préparant sans doute un deuxième assaut, contre le donjon cette fois. Sans hésiter, le magistel se retourna et ordonna aux troupes de se préparer.
« Dès que vous entendrez une deuxième explosion, »
s'exclama-t-il,
« je veux que vous chargiez de nouveau vers le château. Soldats, la victoire est à nous !»
Il espérait simplement que cela n'entrerait pas en conflit avec les plans des druides. Mais il fallait saisir l'occasion, profiter de l'avantage. Les soldats de la terre avaient repris confiance. Dans leurs yeux brillait de nouveau l'espoir de la victoire. Après l'échec de leur premier assaut, ils avaient à présent une seconde chance. Une chance de se venger. L'explosion contre le donjon fut encore plus impressionnante que la première. De larges pierres se décrochèrent de la haute structure, furent projetées en l'air et retombèrent jusque sur la grande place dans un vacarme assourdissant.
« Al-Ragan !»
s'écria Erwan en se jetant sur l'esplanade, brandissant devant lui Bantral, l'épée de son père. Les soldats de la terre, Tagor en tête, se précipitèrent derrière lui, lançant à leur tour son fameux cri de guerre. Ils traversèrent la place en courant sans qu'une seule flèche ne soit tirée du château. Les 2 explosions avaient sans doute tué beaucoup de soldats à l'intérieur, et les survivants étaient sûrement trop sonnés et abasourdis pour reprendre tout de suite leurs esprits. Fingin laissa passer les premiers soldats et, sur la pointe des pieds, chercha Caitlin alentour. Les soldats de la terre se bousculaient, courant vers la grande place, et il avait du mal à reconnaître quiconque. Mais soudain, il aperçut l'actrice.
« Caitlin !»
cria-t-il en tendant le bras au-dessus de la foule. La cheminante leva les yeux et le vit. Elle traversa le flot des soldats, un grand sourire aux lèvres, et se jeta dans les bras du druide. Fingin se laissa embrasser, mais il ne put empêcher le rouge de monter à ses joues.
« Je suis heureuse de te voir, » dit enfin Kathleen en lui caressant la joue. « Allez, » reprit-elle en pointant le doigt vers le château. « Il faut que j'y aille. Nous devons tous y aller. »
Et elle partit en courant derrière les soldats de la terre. Mjoln arriva à son tour, brandissant devant lui Cadel, l'épée que Félim lui avait jadis offerte. Fingin les regarda s'éloigner, un peu perplexe. Puis il partit rejoindre Aléa et les druides de l'autre côté de la place. Les soldats de la terre arrivèrent devant le château en un instant, enjambèrent les décombres et les cadavres qui s'amassaient sous les restes de la voûte de pierre et se précipitèrent dans la cour sur les arcs courtois médusés. Prendre possession du château fut alors beaucoup plus aisé. Les soldats de la flamme tombaient les uns après les autres, désemparés, débordés, ne comprenant sans doute pas tout à fait ce qui se passait. Rapidement, la bataille tourna en faveur de l'armée d'Aléa, et le château tomba à leurs mains. Courtine après courtine, tour après tour, les soldats prirent tous les bâtiments, et bientôt, ce fut le tour du donjon. Erwan fut parmi les premiers à monter dans la haute tour, se battant vaillamment, donnant l'exemple, brillant par sa maîtrise de l'épée et par sa fougue, par la confiance qu'il avait retrouvée. Il enfonçait d'un grand coup de pied les portes de toutes les pièces qu'il croisait. Car en vérité, il ne cherchait qu'une seule chose. Ou plutôt, une seule personne. Dankrai. Quand il arriva au dernier étage du donjon, Erwan ouvrit lentement la grande porte en bois qui terminait l'escalier. Elle donnait sur une pièce ronde, richement décorée. Mais il n'y avait personne à l'intérieur. Prudemment, le magistel fit quelques pas en avant. Se glissant sur le côté, en garde, il vérifia que personne n'était caché derrière la porte. Mais la pièce était bien vide. Il aperçut alors, de l'autre côté de la porte, un petit escalier de pierre. Sans doute donnait-il sur le toit du donjon. Erwan s'approcha lentement des marches. Au même instant, deux de ses soldats apparurent à la porte derrière lui. Il leva la main pour leur faire signe de ne pas bouger, de ne pas faire de bruit. En haut du petit escalier, la porte était ouverte. Le magistel monta les marches une à une, silencieusement. Arrivé en haut, tenant fermement son épée devant lui, il se pencha pour essayer de voir de l'autre côté de l'issue. Rien. Il sentait battre son cœur. Il s'approcha encore du seuil, inspira profondément, resserra ses doigts sur la poignée de son arme et se précipita sur le toit à travers l'ouverture. Il eut tout juste le temps de se retourner pour parer le coup du soldat qui l'attaquait à l'épée. Le vent ventral devant lui, il arrêta la lame de son assaillant, puis le repoussa de toutes ses forces vers l'arrière. Le soldat tomba à la renverse, allant rouler un peu plus loin sur les vieilles pierres lisses. Erwan en profita pour analyser la situation. Ils étaient trois sur le toit du donjon. Lui, le soldat qui l'avait attaqué, et à l'opposé, un homme qui avait le dos tourné et semblait regarder le vide devant lui. Dankrai. Le soldat, qui n'était autre que le capitaine Danil, s'était relevé et revint à l'assaut. Mais Erwan ne lui en laissa pas le temps. Avec son aisance de magistel, il exécuta une volte, pivota sur le côté, arma un revers et donna un violent coup de taille dans la hanche de son attaquant avant même que celui-ci n'ait pu soulever son arme. Le choc fut si violent que l'épée traversa le haubert en cotte de maille vernie, déchira le gambison rembourré et s'enfonça dans la chair du capitaine au moins jusqu'à 1000 âmes. Le jeune homme poussa un cri de douleur et partit sur le côté en se tenant le flanc. Erwan jeta un coup d'œil à Dankrai. Il n'avait pas bougé. Mais Danil, lui, était de nouveau là, prêt à se battre, malgré le sang qui coulait de sa hanche. Il fit quelques passes pour venir au contact du magistel, et les deux épées s'engagèrent. Le capitaine fit une feinte de coup droit, puis un dégagé, mais n'atteignit pas sa cible. Ses coups étaient trop évidents et trop lents, et le magistel parait sans peine ses attaques. Chaque fois qu'il feintait, Danil faisait un appel bruyant du pied, et l'on devinait aisément son intention. Il était sans doute un bon stratège, mais pas le meilleur combattant. À présent qu'il avait estimé son rival, Erwan décida qu'il était temps de passer à l'offensive finale. Avec une rapidité déconcertante, il exécuta une botte remarquable qu'il avait répétée 1000 fois. Une demi-volte sur le côté, un coup de taille sur la main de l'adversaire, puis une fente. Erwan attrapa la main blessée de son opposant et le fit tourner sur lui-même tout en le désarmant. Quand le capitaine se retrouva de nouveau face au magistel, il reçut un formidable coup d'estoc entre les deux yeux qui le tua sur le coup. Erwan laissa le corps de Danil s'écrouler lourdement sur le sol du donjon, passa à côté de sa dépouille ensanglantée et avança vers Dankrai, l'arme tendue vers le sol. Le général s'était retourné et avait assisté à la mise à mort de son dernier garde du corps.
« Vous vous battez aussi bien que votre père, Altaman !»
complimenta Dankrai en applaudissant avec une lenteur exagérée.
« Et vous, Dankrai ?» rétorqua Erwan. « Êtes-vous aussi doué pour l'escrime que vous l'êtes pour la pendaison ?»
Le général éclata de rire.
« Pour l'escrime ? Voyez plutôt, je ne porte même pas l'épée. Je suis un homme de stratégie, Aldaman, pas un vulgaire combattant comme vous.
Vous avez tellement envie que je vous tue pour vouloir ainsi me provoquer ?»
s'étonna Erwan.
« C'est une libération par la mort que vous cherchez ?»
Le général ne cessait de sourire.
« Mais rassurez-vous, »
continua Erwan, qui était à distance d'épée du général à présent.
« Vous n'avez pas besoin de me convaincre. N'ayez crainte. Je suis bienvenu vous tuer, Dankrai. »
« Alors faites !»
répliqua le général en écartant les bras en croix. Erwan leva Bantral au-dessus de sa tête. Il voyait encore les yeux des citadins fuyant la ville. Le corps du comte se balançant au bout de sa potence. Les centaines de cadavres sur la grande esplanade. Il n'éprouvait aucune pitié pour ce bourreau dédaigneux. Il allait le trancher en deux.
« Attends !»
hurla Aléa derrière lui. Erwan poussa un soupir et baissa lentement son épée. Au même instant, le général se précipita par-dessus les créneaux de la forteresse pour se jeter dans le vide. Le magistel plongea derrière lui. De justesse, il rattrapa Dankrai par les jambes et le ramena sur le toit du donjon. Le général se débattait, furieux. Erwan n'hésita pas un seul instant et d'un seul coup de poing, assomma l'officier.
« J'aurais pu débarrasser l'île de cet immonde bourreau !»
maugréa Erwan en se relevant. Aléa le rejoignit.
« Je sais, Erwan, et je suppose que la chose était très tentante. Mais il faut que nous commencions à donner l'exemple. Tout ne peut pas se résoudre comme ça. Et puis, surtout, j'ai quelques questions à lui poser. »
Elle posa un tendre baiser sur les lèvres du magistel.
« Allons, redescendons. Il y a beaucoup à faire en bas. »
La capitale du royaume de Galassie avait retrouvé le rythme normal de l'automne. Et c'était comme si rien n'avait changé. Après avoir été faite druide, la reine n'était plus apparue aux habitants de Providence et la vie avait repris son cours. Les petites rues pavées vivaient de nouveau, bruyantes, agitées. Les artisans et les commerçants avaient retrouvé leurs ateliers. Teinturerie, tannerie, savonnerie, forge. Les trottoirs s'emplissaient des odeurs habituelles de la ville, fortes, comme devant les abattoirs ou les poissonneries. On avait rallumé les fours à chaud et les boutiquiers haranguaient de nouveau les chalands en criant. Sur les places et dans les ruelles, on croisait çà et là des marchands ambulants, la roulotte d'une troupe de cheminants, des colporteurs, quelques soldats. La capitale grouillait en tous sens comme une grande fourmilière. Quand Almar Caïn entra dans Providence, les passants lui jetèrent des regards inquiets. Le visage tuméfié, la peau noircie par la crasse, les vêtements déchirés, il avait l'air d'un vagabond criminel et les gens s'écartaient sur son passage. Il traversait les rues en boitant, se dirigeant tout droit vers le palais sans se soucier du regard des citadins. Il bouscula plusieurs badauds, mais personne n'osait l'interpeller, tellement il avait l'air d'un fou dangereux. Une seule chose comptait. Arriver au palais de Providence. Rencontrer la reine. Il avait promis. Il ne vivait que pour cela. Il avait traversé le pays tout entier. Plus rien ne pourrait l'arrêter. quand il arriva enfin devant le splendide palais de la reine, alors qu'il était sur le point d'y pénétrer, une main se posa sur son épaule et l'arrêta dans son élan.
« Tu ne vas pas entrer dans cet état. »
Almar se retourna. Il ne connaissait pas l'individu qui venait de lui parler. C'était un homme grand et maigre, élégant, aux cheveux roux et aux yeux verts.
« Qui êtes-vous ? »
demanda Almar d'une voix rauque. Il n'avait pas parlé depuis plusieurs jours et sa gorge était sèche et irritée. Les mots lui faisaient mal comme ils sortaient de sa bouche. L'inconnu lança un regard alentour pour vérifier que personne ne les écoutait.
« Je suis comme toi, Almar. Le maître nous a prévenus de ta mission. Mais tu ne peux pas entrer comme ça. Ils ne te laisseront pas.
Suis-moi. »
Almar grogna. On ne lui donnait pas d'ordre. Seul le maître en avait le droit. Il allait au palais. Il n'avait pas l'intention de suivre un inconnu. Non.
Je vais au palais,
bredouilla-t-il le regard vide, comme s'il n'avait pas compris ce que lui avait dit son interlocuteur.
Almar, soupira l'inconnu. Le maître m'a demandé de te faire entrer au palais. Il m'a ordonné de m'assurer que tu serais reçu par la reine. Mais pour te faire rentrer, il va falloir que je m'occupe de ton apparence. Tu es sale, tu pues comme un banni, et tes habits tombent en lambeaux.
Le boucher baissa les yeux et regarda ses vêtements. Il éclata de rire.
La reine ne voudra pas recevoir une loque pareille, hein ?
Dit-il en écartant les bras.
Exactement, répliqua le veilleur de providence d'une voix rassurée.
Comment t'appelles-tu ?
Demanda Almar en s'approchant.
Darag.
Bonjour Darag, je suis Almar Cain, le boucher.
Je sais,
répliqua le veilleur en secouant la tête. Il ne s'était pas attendu à ce que l'homme soit si dérangé. Mais cela faisait sans doute partie du plan de Maol Morda. Darag espérait seulement qu'il pourrait le faire entrer dans le palais. Le veilleur se mit en route et fit signe à Almar de le suivre. Celui-ci se résigna finalement. Il ne voulait pas risquer de rendre Maol Morda furieux. Mieux valait se tenir bien. Si ce veilleur avait pour mission de l'aider à pénétrer dans l'enceinte du palais, autant lui faire confiance. Une seule chose comptait. Sa mission. Voir la reine. En quelques heures, les incendies furent éteints. Et les derniers soldats de la flamme qui restaient dans les différents postes de garde de la ville se rendirent plus ou moins dans le calme. L'armée de la terre s'installa progressivement dans le château, à la place des hommes d'Arcourt. En l'espace de quelques jours seulement, la place forte de Tarnéa avait changé deux fois de main, mais cette fois-ci, les nouveaux occupants étaient sans doute plus légitimes et certainement plus respectueux des lieux. Après tout, de nombreux soldats de la terre étaient originaires de la Sarre, et Aléa elle-même avait vécu toute son enfance dans le comté, non loin d'ici. Les serviteurs du château qui n'avaient pas été massacrés par les soldats de la flamme témoignèrent en tout cas avec sincérité de leur reconnaissance à l'égard des nouveaux châtelains, et une humeur plus légère s'empara peu à peu de la ville. Sans l'intervention des druides, l'armée de la terre n'aurait sans doute jamais pu libérer Tarnéa, et les hommes au blanc manteau furent acclamés par les soldats d'Aléa. S'installant eux aussi dans le château de la capitale, ils soignèrent les blessés et participèrent très vite aux premiers travaux de réparation afin d'éviter que certaines parties de l'édifice ne s'écroulent. Aléa demanda que l'on prépare une grande fête le soir même. Le danger, pour le moment, était écarté et la ville avait grand besoin de s'offrir un peu de sérénité, de se retrouver et de partager la joie pour oublier les peines. Ce qui se passa ensuite dépassa toutes les espérances de la jeune fille. Au fur et à mesure de la journée, la place de la raison ne cessa de se remplir de monde. Les habitants de la ville affluaient, les uns après les autres, acclamant Aléa, les druides et l'armée de la terre, célébrant leur liberté retrouvée. Au milieu de l'après-midi, on trouva même des sarrois des villes voisines pour rejoindre cette foule joyeuse et fêter la victoire du Samil Danak. La célébration, le soir venu, fut, de mémoire de Sarwa, la plus belle que la ville ait connue. De nombreux bardes de la région et ceux de Saïmina donnèrent sur la grande place un spectacle de musique et de contes. On dansa, on chanta et l'on but bien plus que de raison. La ville tout entière s'alluma de feu et de couleurs, de sourires et de joie. À l'intérieur du château, Aléa mangea avec ses compagnons et avec les grands druides de Saïmina. L'un des meilleurs chefs de la ville, qui tenait place du Vert, une auberge de renom, était venu aux cuisines du château dès le début de l'après-midi pour préparer aux convives des plats de fête. En entrée, il servit des petits friands de pâte feuilletée fourrés avec de la farce de porc que le cuisinier avait fait revenir au beurre avant d'y ajouter des œufs durs écrasés, des graines de cumin noir et un peu de crème fraîche pour lier. Les friands, dorés à la perfection, firent le bonheur de Mjoln, qui en prit trois à lui tout seul, et en aurait sans doute mangé davantage si les serviteurs n'avaient amené enfin le plat principal, du cochon de lait farci. C'était, à n'en pas douter, l'une des spécialités du chef, qu'il préparait avec une grande maîtrise. Dans de l'eau salée, il avait fait cuire l'échine et les abats du porcelet pendant près d'une heure, en n'oubliant pas toutefois d'enlever le foie beaucoup plus tôt pour qu'il ne soit pas trop cuit. Pendant ce temps-là, il avait fait bouillir dans l'eau une grande quantité de châtaignes et des œufs jusqu'à ce qu'ils fussent durs. Après avoir nettoyé le cochon pour enlever les soies et les taches de sang, il avait salé l'intérieur avec soin, puis l'avait laissé reposer afin de finir la farce. Il avait haché l'échine et les abats cuits, y avait ajouté du jambon et du fromage, puis après les avoir écrasés, les châtaignes et les jaunes d'œufs. Pour que la farce ne fût pas trop dure, il avait ajouté à raison quelques jaunes crus. Ensuite, il avait salé abondamment la farce, l'avait saupoudrée de gingembre et de filaments de safran, puis l'avait introduite dans le ventre du cochon jusqu'à ce qu'il fût bien plein. Avec de la ficelle à rôti, il avait recousu l'animal puis l'avait laissé cuire pendant de nombreuses heures, venant régulièrement surveiller la peau dorée de la viande. Le chef avait servi son plat avec une cameline, et en accompagnement, il avait offert aux convives de petits oignons blancs rissolés dans du beurre et du sucre, trempés d'un peu de jus de cuisson du cochon et saupoudrés de cannelle. C'était un vrai délice, digne des meilleures auberges de Bizagne, et les druides eux-mêmes félicitèrent le cuisinier quand il vint vérifier que tout se passait bien. Quand on apporta le dessert, une crème de lait d'amande aux fruits secs, la plupart des convives n'avaient déjà plus faim. « Hernan, » déclara Aléa à la fin du repas, « nous vous sommes tous infiniment reconnaissants. »
« Ne nous remerciez pas, » répliqua l'archidruide. « Nous nous devons de protéger le comté de Sar, et Saïmina aurait dû vous porter secours beaucoup plus tôt, Aléa. J'espère qu'il n'est pas trop tard. »«
Que voulez-vous dire ?»
intervint Mjoln, que ce genre de pessimisme ne rassurait guère.
« Je veux dire que je ne suis pas sûr que nous parviendrons à ramener la paix sur cette île. Les conflits sont si nombreux et si complexes. »
« Il ne s'agira pas simplement de ramener la paix, Hernan. Ce n'est pas un état passé vers lequel je voudrais revenir. C'est un état futur que je voudrais créer. Il s'agira de changer radicalement le système de la Gaëlia. Si la Gaëlia tombe ainsi, c'est qu'elle ne tenait pas sur de bonnes bases. »
L'archidruide acquiesça lentement.
« Il serait de toute façon très difficile de revenir en arrière, »
reconnut-il.
« Trop de choses ont changé. »
Il posa les mains sur la table.
Certaines même dont je n'étais vraiment pas au courant, ajouta-t-il en tournant la tête vers Fingin et Caitlin.
Mjoln pouffa.
Mais sais-tu au moins ce que tu veux, Aléa? Reprit l'archidruide. Si tu avais vraiment les moyens de faire changer les choses, que mettrais-tu à la place de ce que nous avons connu jusqu'à aujourd'hui?
Je commence à avoir ma petite idée là-dessus, druide. Mais je ne veux pas être la seule à y penser. Tout le monde doit y réfléchir. Toutefois, je préfère vous prévenir dès maintenant. Vous qui nous avez rejoints, il y a certains changements auxquels je tiens et qui ne vous plairont guère.
Les derniers événements nous ont appris à accepter le changement,
répliqua Shehan, à la droite de l'archidruide. À vrai dire, le conseil avait tant perdu ces dernières semaines qu'il n'avait pas vraiment d'autre choix.
Il faudra que tout le monde puisse apprendre à lire et à écrire, par exemple.
Karan, qui était resté silencieux jusqu'à présent, frappa dans ses mains.
« Qu'il en soit ainsi, »
approuva-t-il en souriant.
«
J'ai toujours pensé que cette règle était une idiotie de nos ancêtres.
Hernan se racla la gorge et reprit la parole.
Je ne dirai pas la même chose, mais si vous nous montrez quel bien cela apportera aux gens de l'île et que vous nous convainquez, alors nous vous soutiendrons de pied ferme.
C'est justement cela qui devra changer, Hernan. Ce n'est plus à vous de juger ce qui est bon ou ce qui ne l'est pas pour l'île. Je n'ai pas dit, moi, que j'obligerais tout le monde à lire. J'ai dit que tout le monde devrait avoir la possibilité d'apprendre. La liberté d'apprendre.
Hernan grimaça.
Il faudra bien que quelqu'un dirige le pays, Aléa.
Nous verrons. La fête continua très tard dans la nuit. Seule dans une chambre que les serviteurs du château avaient préparée pour elle, Aléa entendait les cris et les rires des citadins au dehors. Elle ne s'était pas attendue à une telle liesse, et quand elle était descendue un peu plus tôt sur la place, les acclamations des Tarnéens lui avaient presque fait peur. Mais il fallait assumer. Depuis le jour où elle avait accepté son rôle, elle n'avait d'autre choix que de reconnaître autant la hargne de ses ennemis que l'enthousiasme de ses admirateurs exaltés. Pour beaucoup de gens sur l'île, elle incarnait l'espoir d'un changement, d'un renouveau. Et il allait falloir ne pas les décevoir. À présent, Aléa refusait de céder à la panique. Elle refusait de baisser les bras, ou même de détourner son regard. Elle voulait affronter tout ce qui l'attendait avec les yeux grands ouverts. Et la victoire de Tarnéa n'était qu'une préface à ce qu'elle voulait accomplir sur l'île. Car maintenant, elle en était sûre. Ce dont la Gaëlia avait besoin, c'était bien d'un système nouveau. Mais pas n'importe lequel, et pas n'importe comment. Ceux qui étaient responsables des crises trop nombreuses que traversait l'île avaient commis des erreurs qu'il allait falloir désormais éviter à tout prix. La jeune fille s'allongea sur le lit, passa ses mains derrière la tête et poussa un long soupir. La Sarre était libre à présent, certes. Mais il allait falloir maintenir cette liberté, protéger le comté des nombreuses agressions possibles. L'Harcourt voudrait sans doute se venger, et même la Galassie, qu'Amine semblait diriger avec une fermeté déconcertante, aurait certainement envie de venir reprendre ses marques jusqu'ici. Il allait falloir inverser le cours des choses. Plutôt que de céder la Sarre à la monarchie brutale de la Galassie ou au christianisme militaire de l'Harcourt, il allait falloir porter alentour ce vent de liberté. Donner l'exemple. Tarnéa pouvait devenir le symbole d'un souffle nouveau. La jeune fille tendit la main vers son grand sac, posé à côté d'elle sur le lit. Elle en sortit l'épais volume de l'encyclopédie d'Annalie. Dès qu'elle le pouvait, elle se replongeait dans ce texte incroyable dont la profondeur ne cessait de l'étonner. Le Samil d'Anak, qui par le passé avait écrit ces pages, avait-il reçu un savoir absolu? La gnose? Une connaissance totale des êtres et de l'histoire? Comment avait-il pu deviner autant de choses et si bien les écrire? Pouvait-elle faire confiance à ce texte qui était si subversif? Elle commença un chapitre qu'elle avait déjà parcouru en biais et qui était sans doute l'un des plus importants du gros volume. Il concernait le Saïman, objet, en outre, de la deuxième prophétie, et ce qu'Aléa y lut la surprit encore plus que tout ce qu'elle avait découvert jusqu'à présent dans les pages de l'encyclopédie. Si ce qu'Annalie disait était exact, c'était sans doute la révélation la plus importante de son œuvre, une révélation qui bouleversait complètement la vision la plus partagée du monde. Avant tout, Annalie expliquait comment les druides maîtrisaient le Saïman. Il répertoriait notamment les différents exercices de concentration enseignés à Saïmina, et en dehors de quelques techniques particulières, ce n'était pas là qu'Aléa trouva quoi que ce fût de vraiment exceptionnel. En revanche, après avoir fait le tour de la question, le texte d'Annalie prenait une toute autre tournure, et Aléa relut deux fois les derniers paragraphes pour être sûre qu'elle avait bien compris le sens de l'exposé. D'après l'auteur, le Saïman n'était pas un pouvoir magique réservé aux druides, mais plutôt un ensemble de lois et de forces qui régissaient le monde tout entier. Pas un pouvoir magique? L'ancien Samil Danak racontait en outre comment Saïmina avait interdit l'écriture pour empêcher la diffusion d'un tel savoir et réservé aux seuls druides la maîtrise de ces forces pourtant ordinaires selon lui. Naturelles. Oui, Anali utilisait même ce mot, naturel. Et l'auteur de conclure en explicitant ainsi la seconde prophétie, le dernier Samil Danak retrouverait le sens de ses forces naturelles, au nombre de 3 selon lui, et alors leur maîtrise exclusive échapperait à la caste des druides pour se répandre d'une manière bien différente dans la population tout entière. C'était cela la fin du Saïman. Et il l'appelait science. Aléa laissa retomber l'encyclopédie sur ses genoux. Elle comprenait mieux à présent pourquoi les druides du conseil se montraient si méfiants à l'égard du texte d'Anali. Ils remettaient en question tout l'enseignement de Saïmina et accusaient même les druides d'une certaine malveillance. Mais Anali disait-il vrai? Et comment comprendre la nature même du Saïman? Car si les prophéties étaient justes, alors Aléa était le dernier Samil Danak, et si elle l'était, elle allait devoir retrouver le sens originel des forces du Saïman. De ses forces naturelles. En était-elle seulement capable? Tout cela lui paraissait tellement abstrait, tellement flou qu'elle ne savait même pas par où commencer. Elle reprit l'encyclopédie devant elle et la rangea à l'intérieur de son sac. Puis elle posa celui-ci par terre et se glissa sous la grande couverture qu'on avait posée sur son lit. Elle ferma les yeux et chercha le sommeil, espérant que la nuit saurait lui donner quelques réponses.
« Nous venons de recevoir par pigeon voyageur une nouvelle incroyable », expliqua Carla Bisani en s'asseyant à la grande table où l'attendaient le capitaine Giametta et 3 autres officiers de l'armée de Bisagne. Après l'annonce de la mort de son père, Carla Bisani avait été proclamée par la cour de Farfanaro baronne de Bisagne. À travers toute la baronnie, de nombreuses rumeurs couraient sur la possible culpabilité de la jeune femme dans le sombre meurtre du vieux Bisani. Mais personne ne semblait vraiment s'en offusquer. Les gens trouvaient même le geste assez romantique, et il ne semblait pas que le parricide fût incompatible avec la Decenza. Arriver sur le trône en tuant son père ne manquait pas de panache, disait-on, et cela témoignait en tout cas d'un désir fort de prendre le pouvoir, ce qui apparemment était un bon présage. Par providence, sans doute, le seul homme à la cour qui eût pu causer de vrais problèmes à Carla, le bailli Stefano, était mort le même soir.
« Nous vous écoutons », affirma Giametta en saluant la baronne.
« Aléa Kasfad, le Samil Danak, aurait repris Tarnéa au général d'Ancret avec l'aide des derniers druides de Saïmina », s'exclama la jeune baronne. « Apparemment, le comté de Sar vient de trouver en elle son grand sauveur et par la même occasion, la cour, son plus grand ennemi. »
Carla fit une moue presque amusée.
« Vous semblez penser que c'est une bonne nouvelle ?»
demanda Giametta, sceptique.
« Bien sûr, » répliqua la baronne, « car cela affaiblira l'Arcour. Le comte Alroeg espérait prendre un peu de poids en annexant la Sarre, mais la jeune fille l'a renvoyé comme un malpropre. Plus que jamais, nous devons soutenir la galaxie pour attaquer l'Arcour. »
« Permettez-moi pour la première fois de ne plus en être si sûr, » avoua timidement le capitaine Giametta.
« Allons, et pourquoi cela ?»«
Ne perdons pas de vue notre objectif. Il s'agit de renforcer notre pouvoir politique, n'est-ce pas? Et pour ce faire, nous voulons nous rendre nécessaires auprès de la galaxie dans sa lutte contre la cour. Soit. C'était jusqu'à présent une bonne idée et je la partageais avec vous, madame. Mais aujourd'hui, sommes-nous sûrs que la galaxie soit en notre pays la force majeure ?»«
Que voulez-vous dire ?»«
Ne devrions-nous pas plutôt chercher une alliance avec cette fameuse Aléa ?» Après tout, c'est elle qui en ce moment semble détenir tous les pouvoirs.
Vous plaisantez ? S'exclama la baronne. Aléa n'est qu'une anecdote, qu'un détail, une faute de parcours. Certes, elle est célèbre aujourd'hui, et certes, elle est victorieuse. Mais ce n'est qu'une petite parcelle de l'histoire de l'île. Ce n'est rien à côté de la valeur symbolique de la galaxie. Dans 10 ans, plus personne ne se souviendra d'Aléa. Son heure aura passé. Mais dans 100 ans,
Dans 1000 ans, sans doute, la galaxie sera toujours le centre du royaume. Non, c'est bien avec la reine que nous devons pactiser.
Ce qu'on dit sur cet aléa me semble bien plus important que vous ne semblez le croire,
protesta le capitaine.
Je ne pense pas, moi, qu'elle va être oubliée de sitôt.
Vous prêtez bien trop d'importance au ragot populaire, mon pauvre Diametta.
On dit qu'elle maîtrise le Saïman mieux que tous les druides réunis. J'y crois sans peine quand je regarde son parcours. Elle a d'abord vaincu les Érylim, puis elle a échappé aux druides, qui aujourd'hui se sont en partie alliés à elle. Elle est allée défier Alroeg jusqu'au palais de Rhia, et elle vient de prendre la Sarre des mains du meilleur stratège de l'île. Non, franchement, cette jeune fille ne me paraît pas n'être qu'une anecdote, baronne.
Elle n'a repris Tarnéa que parce que le comte d'Harcourt n'avait pas cru utile d'y envoyer plus de 3000 hommes. Mais s'il fallait demain qu'elle affronte une armée véritable, comme celle de Galassie, elle n'aurait aucune chance. Je vous assure que notre meilleur allié aujourd'hui, c'est la reine.
Espérons alors qu'Aléa pense la même chose pour que nous puissions nous retrouver dans le même camp.
C'est fort probable, confirma Carla. Aléa et la Galassie ont après tout un ennemi commun, l'Harcourt. C'est précisément pour cela que nous devons agir en faveur d'une guerre contre Alroeg. Nos chances de victoire seront d'autant plus grandes.
Diametta acquiesça, partiellement convaincue, jeta un coup d'œil aux autres officiers et, comme aucun ne semblait vouloir prendre la parole, demanda.
Devons-nous donc nous préparer à envoyer des troupes auprès de la Galassie pour affronter l'Harcourt ?
S'entraîner, approuva la baronne. Je veux que les premiers mercenaires partent dès demain.
Dès demain ? Vous n'y pensez pas ?
Je compte sur vous, Diametta. Si vous n'êtes pas capable de mener à bien cette mission, je devrais nommer quelqu'un d'autre à votre place. Mon père est mort, capitaine. Il va falloir reprendre l'habitude de travailler.
Un dénommé Almar Cain demande à vous voir. Il dit que vous le connaissez.
La reine, allongée depuis 2 jours dans son grand lit, fronça les sourcils.
C'est un piège.
Voulez-vous que nous le fassions entrer?
Je ne sais même plus qui c'est. Almar. Oui, je connais ce nom. Bien sûr, il est inscrit quelque part dans ma tête. Almar Cain. Je suis certaine de le connaître, mais d'où?
Pour la première fois depuis qu'elle était alitée, la reine parla enfin.
Oui, qu'il entre.
Le serviteur parut surpris. Amine refusait toute visite depuis 2 jours. Elle n'avait voulu voir ni les druides, ni Belly. On l'avait retrouvée évanouie dans la plus haute pièce du palais, et depuis lors, elle passait ses journées à murmurer dans son lit, en proie, semblait-il, à une folie grandissante. Le serviteur fit entrer Almar dans la chambre de la reine et se retira en silence.
« Amine, » dit Almar en s'approchant du lit. « Par la Moïra, le boucher. C'est le boucher de Saratea. Je reconnais sa voix. Si j'avais su, je n'aurais pas laissé entrer un misérable boucher. Que me veut cet imbécile ?»
Les yeux rivés au plafond, les bras tendus le long du corps, elle paraissait le double de son âge. Sa peau était si pâle qu'elle aurait pu passer pour morte.
« Vous êtes souffrante. »« Que voulez-vous ? »
répliqua la reine sans tourner la tête. Almar attrapa une chaise et s'assit à côté du grand lit.
« Je suis venue vous mettre en garde, Amine. »
« Je savais que c'était un piège. C'est lui qui l'envoie. Et Hogan. » « C'est un piège, Théogane. Encore. Je ne dois pas me faire avoir. Je ne dois pas l'écouter. C'est un traître. Peut-être même est-ce Théogane en personne, déguisé. Oui, c'est lui, j'en suis sûre. Il est revenu du pays des morts pour se venger. »«
Vous mettre en garde contre Aléa, »
continua le boucher en s'approchant encore un peu.
« Aléa ?»
Amine tourna lentement la tête vers le boucher. Elle le reconnaissait à présent. Il était toujours aussi gros, toujours aussi laid. Mais quelque chose avait changé. Dans son regard.
Ce sont les yeux d'Eogan. Ce n'est pas le boucher. Que ferait-il là? Non, j'en suis sûre, c'est mon roi. Mon roi revenu du pays des morts pour me chercher.
Vous n'auriez jamais dû l'abandonner, Amine.
C'est un piège. Il ment. Je ne l'ai pas abandonné. Aléa était ma meilleure amie.
Vous êtes partie de Saratea. Vous l'avez laissée seule. Elle ne vous l'a jamais pardonné.
Je n'avais pas le choix. Ce n'est pas moi qui ai décidé de partir.
Mais vous ne savez pas la vérité, Amine. Moi, je la connais. Aléa, elle, vous voulez pour elle toute seule. C'est pour cela qu'elle ne vous a pas pardonné. Vous étiez sa raison d'être. C'est elle qui a tué votre père. Parce qu'elle ne voulait pas vous partager, Amine.
C'est un piège. Un piège. Un piège. Un piège.
Aléa n'a pas tué mon père.
Non, Aléa était ma meilleure amie.
Oui, ma reine. C'est Aléa qui a tué votre père. Aléa. Parce qu'elle vous voulait pour elle toute seule. Et alors vous êtes partie. Et Aléa vous en a voulu.
Il ment. Je n'ai pas eu le choix.
Et les choses ont empiré d'année en année. Elle n'avait plus qu'une idée en tête. Se venger. Se venger de vous.
Tais-toi, Eogan. Tais-toi. Je sais que c'est toi qui parles.
Et maintenant, elle en a les moyens. Maintenant, elle peut vous faire tuer.
C'est toi qui veux me tuer, Eogan. Traître. Aléa était ma meilleure amie. Tu mens.
Et c'est pour cette raison que vous devez m'écouter, Amine. Je suis venu vous mettre en garde parce que moi, je sais. Moi seul peux vous sauver contre Aléa.
Tais-toi. Laisse-moi.
Elle veut vous tuer, Amine.
Tais-toi.
Vous assassiner.
Soudain, la reine se redressa en hurlant, les yeux injectés de sang, tremblant de tout son corps. Elle se jeta sur le boucher.
Tais-toi !
Cria-t-elle en l'attrapant à la gorge. Almar tomba à la renverse du haut de sa chaise. Il essaya de se rattraper à la petite table au bord du lit, mais il l'emporta dans sa chute. Il s'écroula avec bruit sur le sol de marbre. Mais Amine ne lâcha pas prise. Les doigts serrés autour de son cou, elle essayait de l'étrangler, le regard rempli de folie et de haine. Le boucher, ne pouvant plus respirer, commença à se débattre. Il ne ressentait aucune douleur. Cela faisait longtemps qu'il ne ressentait plus rien. Mais il savait que s'il ne retrouvait pas un peu d'air, il allait mourir. Et s'il mourait, il ne pourrait remplir sa mission pour le maître. Il devait s'en sortir. Mais la hargne de la reine était si grande qu'elle décuplait ses forces, et Almar ne pouvait s'en débarrasser. Soudain, alors qu'il cherchait à se redresser en s'appuyant sur le sol, il sentit sous sa paume un objet tranchant. Sans doute un morceau du vase qui s'était brisé en tombant avec la table. Sans hésiter, il attrapa le tesson à pleine main. Il le serra entre ses doigts, si fort que le bout de porcelaine lui entailla la peau. Mais il ne le sentit pas. Il leva la main sur le côté, la laissa tendue un instant au-dessus d'eux, puis le regard rempli de rage, il frappa la reine à la gorge de toutes ses forces. Le tesson tranchant s'enfonça profondément dans le cou d'Amine, qui tomba sur le côté. Almar se redressa sur ses genoux, pivota vers la reine et frappa de nouveau. La pointe aiguë se planta dans l'œil de sa victime et s'enfouit jusqu'à la cervelle. La reine mourut aussitôt, le visage couvert de sang et de chair déchirée. Mais Almar, l'esprit vide, continua de frapper. Il retirait le morceau brisé du vase, le dressait au-dessus de sa tête et l'abattait de nouveau sur le visage de la morte, machinalement. Sans ralentir, sans se demander combien de temps encore il devait continuer. Plus il frappait, et plus les gerbes de sang l'excitaient. Bientôt le visage de la reine ne fut plus qu'une bouillie d'os et de sang. Et quand les gardes entrèrent pour arrêter l'assassin, il continuait encore.